c'est ça?
Non, Fana Danse Contemporaine n'est pas un organisme,
pardon,
c'est finalement justement une édition.
D'accord.
Qui émane d'un laboratoire et des recherches qu'on a pu mener. Je vais y venir, bien sûr. Donc mon propos concerne cette question du document audiovisuel dans l'art chorégraphique, mais spécialement de son usage justement dans la recherche en danse. Et donc, dans un deuxième temps, je voudrais donc vous présenter cette édition numérique, puisque c'est une édition numérique de Fana Danse Contemporaine, qui présente des catalogues, des fonds. Alors, Fana, donc, c'est l'acronyme de Fonds d'archives numériques audiovisuelles. Donc, les fonds de Dominique Bagoué, des carnets Bagoué réunis, et aussi de la chorégraphe Ingeborg Lipté. Donc en présentant l'accès pour les chercheurs et pour toute personne qui en fait la demande à plus de près de 300 vidéos avec leurs fiches indexées. On va en reparler. Donc c'est la constitution de ce catalogue qui va m'amener donc à vous présenter toutes les réflexions qui ont été les nôtres sur la constitution de ces archives. Et voilà. D'abord, j'aimerais donc poser la question de l'archive audiovisuelle dans la recherche en danse. Donc, l'usage diversifié de la vidéo dans les pratiques chorégraphiques artistiques depuis les années 60, relayé par une dizaine d'années par les possibilités de diffusion Internet, devrait changer et encore profondément les méthodologies, les constitutions d'objets d'études et des sources pour la recherche en danse. Or, je voudrais faire le constat d'une certaine anarchie en la matière, anarchie qui provient évidemment de l'éparpillement de ces documents audiovisuels, de leur état de stockage, de leur format diversifié, l'idée de la numérisation n'allant pas forcément sur un recentrement, en fait, c'est aussi de l'éparpillement au niveau des formats, notamment, du statut de leur diffusion aussi, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de publication, et c'est le cas pour la plupart. Donc il est clair que l'objet vidéo participe d'abord et avant tout pour les acteurs, je parle des acteurs en général et pas seulement des chercheurs, un réseau d'échanges et de traductions qui reste, malgré leur diffusion élargie et récente donc sur le web, de l'ordre de la transmission orale et corporelle. Nous dirons que les documents se passent donc le plus souvent de main en main. Et même lorsqu'ils sont sur le web, on pourrait constater finalement un contexte complètement anarchivistique, plutôt qu'anarchique là pour le coup, des traces audiovisuelles en danse dans le sens où elles ne sont pas historisées ou ne procèdent pas d'une conscience historique, mais donc davantage de phénomènes de mémoire. Donc c'est ce contexte anarchivistique qui fait aussi que ces documents restent pour la plupart à l'état de trace et ne sont que très rarement constitués en archives. J'entends par là non seulement des politiques d'archivage plus conséquentes comme celles qui sont mises en place à partir des années 2000 et auxquelles j'ai participé avec Fana, puisqu'on a commencé en 2006, notamment avec des échanges avec Numéridance, avec le CND, mais aussi avec l'INA, quand ils ont commencé leur archivage audiovisuel en art du spectacle. Il n'empêche qu'au regard en fait de... Je voudrais reporter ce contexte anarchivistique dans le cadre de la recherche en danse, puisque je constate quand même assez largement que la source filmique, au contraire même des sources orales, des sources papier, écrits, dessins, photos, partitions, notations, n'est souvent pas pensée comme un document véritable, dans le sens où, peut-être en mal de localisation et d'accès légitime, mais elle reste dans les travaux, rarement indexée, avec la précision que nécessite toute référence. Pire, quelquefois, elle n'est même pas mentionnée en tant que source, alors même qu'elle est utilisée, on va dire, en tant que document. Oui, mon discours serait quand même une invitation à une certaine précision des références en la matière, même si j'y reviendrai. Donc cette situation anarchivistique confère finalement, selon moi, un vide d'archives, même s'il y a plein de traces, notamment pour l'art chorégraphique du XXe siècle. Et je me dis qu'au regard de, justement, de ces grandes mutations technologiques, artistiques, documentaires, scientifiques, etc., culturelles, où on est plutôt sur un constat de l'inflation d'archives, et qui a lieu dans beaucoup de domaines, avec même quelque peu une obsession mémorielle dans beaucoup de domaines, il me semble plutôt que dans le domaine de l'archive audiovisuelle en danse, on fonctionne encore beaucoup plus sur l'histoire, sur la mémoire que sur l'histoire. Et ces déficits provenant globalement, il me semble, non pas tant des acteurs eux-mêmes, des chercheurs, des danseurs, etc., mais plutôt du déficit réel des cadres de reconnaissance de la danse, de l'art chorégraphique, mais aussi plus largement des gestes du corps et des corps. J'aimerais, en avançant encore un peu, mettre le doigt sur quelques prismes de la pensée qui concernent l'archive audiovisuelle en danse, et spécialement donc là dans l'art chorégraphique, du XXe siècle, et aussi dans l'art, spécialement l'art chorégraphique contemporain. Et faire le constat critique qu'une certaine pensée du document audiovisuel en danse infiltre l'ensemble des acteurs. J'entends par les acteurs ici, avec la sociologie de Bruno Latour, tout le réseau des acteurs hétérogènes que l'objet vidéo en danse met en lien, mais aussi l'objet vidéo lui-même dans ses différentes traductions et notamment numériques. Donc le premier point concerne une certaine pensée de l'essence des objets invoqués, c'est-à-dire que la vidéo semble intervenir exactement à l'endroit d'une possible capture des mouvements dansés. Donc elle paraît intervenir exactement au lieu d'une possible conservation d'un objet éphémère et fugace, donc en un objet durable, DVD stable, comme vient de le prononcer Susanna. Et d'une possible reproductibilité aussi, voire téléreproductibilité d'un phénomène donc immédiat, situé et unique. Donc soit ce premier prisme, l'image en mouvement apparaît par excellence comme le premier objet traducteur presque direct de la danse, même si cette trace n'est pas transformée en archive. Le deuxième point qui est impliqué par celui-ci, c'est que la trace audiovisuelle du spectacle de danse, on place souvent la trace audiovisuelle du spectacle de danse comme le document ou l'archive potentielle de l'art chorégraphique, notamment contemporain. Donc, documenter l'art chorégraphique contemporain, c'est d'abord réaliser, récolter ou utiliser des captations de ces représentations en spectacle. Quoique, il me semble que l'art chorégraphique se réalise au travers d'une pluralité de pratiques, de création, de transmission, de formation, de production, de diffusion, de promotion, de médiation, d'évaluation institutionnelle, de recherche, de critique. Quoique ce qu'on appelle ici, pour moi, le fait chorégraphique global dépasse largement la reproduction filmée d'une représentation publique d'un spectacle de danse, il y a cette forte propension des artistes eux-mêmes, des pédagogues, des différents intervenants culturels ou institutionnels, des producteurs, des diffuseurs, des médiateurs et des inspecteurs, des journalistes, des documentalistes, des enseignants, comme des chercheurs, de penser globalement, et je le donne en une formule, l'archive vidéo, c'est le spectacle. Je veux juste vous dire que cette formule m'a en fait été soufflée par Anne Abeille, qui a construit avec moi, qui a participé, a collaboré avec moi ces archives que je vais vous présenter. Et elle m'a donné cette formule il y a 15 jours en me disant, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on comprend vraiment bien que l'archive vidéo, ce n'est pas que le spectacle, et que le spectacle, ce n'est pas qu'une archive vidéo qu'en plus, on n'aurait pas, même pas nommé, quoi. Donc voilà. Troisième prisme de, de la pensée qui intervient dans les discours, me semble-t-il, c'est une pensée de l'unicité. C'est-à-dire qu'un spectacle, ben, finalement, c'est une vidéo, c'est une œuvre et c'est un auteur. Donc, un. Donc, il y a une réduction, une hiérarchisation des traces du visuel qui fait qu'on va accorder l'importance première donc, à la captation d'une œuvre, d'un spectacle, quoi, d'une représentation. J'en viens donc à la présentation du catalogue. C'est vraiment dans ce désir de ne pas aplatir l'épaisseur du fer chorégraphique de l'ensemble de ces ouvrages chorégraphiques et vidéographiques en nombre et en durée qui a été notre manière de concevoir en fait ces archives des carnets Bagoué et de Dominique Bagoué. Donc je vais aller sur le fond, présenter ce fond. C'est gros. Bien. Donc on arrive ici sur cette première page qui est assez élargie, là. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Et puis je ne parviens pas à... Ah, c'est pas... Non, excusez-moi, c'est bon. Donc, on a cette présentation de Fana Danse Contemporaine, donc qui présente là brièvement donc la conception de ces catalogues. On a donc tout un texte où véritablement toute la construction est mise à jour et toutes les options qui ont été faites. Donc, ce catalogue s'assume complètement comme une construction. Les conditions d'accès et d'utilisation. Etc. Et puis l'accès donc aux deux fonds qui sont présentés, donc le fonds numérique Dominique Bagoué, Carnet Bagoué, et le fonds numérique audiovisuel d'Ingeborg Litté. Donc on va aller sur le fonds accès au catalogue. Donc ce catalogue déjà a véritablement eu ce parti pris de réunir le fonds de Dominique Bagoué et le fonds...
Oh, pas grand-chose.
Parce qu'il y a le temps court. Bien, il faudrait déjà que je dise combien cette construction résulte... en amont de parti pris qu'ont eu les danseurs des Carnets Bagoué à la suite de la mort du chorégraphe en 92, d'investir de manière inaugurale pour une compagnie de danse non seulement leur corps en archives et de transmettre et de passer leur mémoire corporelle à d'autres en de multiples transmissions, passations et reprises ou recréations, ce jusqu'à aujourd'hui, hein, des recréations des pièces de Dominique Bagoué ont encore lieu, mais aussi, et cela de manière peut-être tout à fait inaugurale, c'est certainement moins connu, d'emblée, en fait, dès leur création, en 93, les Carnets Bagoué disent qu'ils vont s'intéresser aussi à toutes les traces matérielles, bien sûr les fameux carnets de Dominique Bagoué, hein, mais aussi justement les archives audiovisuelles. Donc dès 93, ils avaient comme ça une espèce de même en plein deuil, même vraiment dans ce parcours de la mémoire, mais l'idée déjà de récolter, de s'occuper des traces matérielles. Simplement, quand j'ai rencontré donc Annabelle en 2007, franchement, ils ne savaient pas, malgré les récoltes qu'ils avaient faites, malgré les numérisations aussi, ils ne savaient pas quoi faire de ces archives, hein, à part bon, éventuellement les déposer ailleurs. Voilà. Alors... Là, je voudrais poser plusieurs questions, en fait, à travers cette... Alors, il y a 1000 questions qui se sont posées je me suis retrouvée donc, avec ces 300 documents. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? La première question, c'est évidemment la question de l'ordre. La question de l'ordre, la question du tri, la question du classement. La deuxième question qui est apparue cruciale, qui est intervenue, c'est la question de la nature du document audiovisuel. Je vais vous en reparler. Ensuite, il y a eu la question de l'auteur. Qui est auteur de l'archive audiovisuelle ? Et la question de l'œuvre, qui est apparue aussi très cruciale, aussi relativement par rapport à l'épaisseur de ce fonds. Mais peut-être aussi en résonance avec les deux communications précédentes, je voudrais citer Derrida, qui est bien sûr le référent en la matière, mais sur les conditions de l'archive. Et sa phrase commence, et j'arrive pas à retrouver parce que c'était pas prévu, mais sur l'idée de l'importance d'une extériorité du lieu, l'importance de l'ordre, l'importance d'à un moment donné de l'autorité en fait pour faire archive, mais aussi l'importance de l'extériorité. Et c'est vrai que Laban, Liffard, voilà, il y a cette peut-être dimension de l'extériorité qui manque à la condition de l'archive. Moi, je tiens vraiment à dire que, voilà, par rapport à Annabelle et au carnet Bagoué, etc., et à toute la dimension, et à toute la planète Bagoué, je me suis vraiment posée très extérieure par rapport à ça, si bien qu'au bout de 6 ans de travail avec Annabelle, on a pu, justement, j'ai pu dépasser quelques-uns de ces premières prémices, par exemple, le fait que, on va voir après, mais le fait que de réunir, par exemple, les deux fonds, pour elle pensait véritablement qu'on allait faire le fonds Dominique Bagoué, l'auteur, et puis bon, les carnets Bagoué, ce qu'ils ont fait après. Donc, alors que moi, toute la richesse en fait, de ce fonds, c'était justement de réunir les deux. Rien que ça. Mais ça a été constant. Hein, on s'est toisé. On ne s'est pas réunis pour faire un fonds. Et voilà. Donc là, question de l'ordre, je clique sur documents. L'ensemble des documents vont apparaître en fait là par ordre chronologique. Hier, ils étaient encore par ordre alphabétique. Donc voilà, comment on ordonne ? Là, je vais faire un petit peu de la chorégraphie. Voilà, tous ces documents qui apparaissent, qui ont été indexés de la manière suivante. Il m'a paru très très important de considérer, donc à l'inverse de tous les types d'indexation que j'ai pu rencontrer, d'une part, la nature intrinsèquement double de l'archive audiovisuelle en danse, en ce qu'elle relève à la fois autant du vidéographique que du chorégraphique. Donc il s'agissait de considérer que les documents audiovisuels en danse sont construits sur des gestes du voir et participent aux traductions à l'œuvre des danses, et qu'en ce sens, l'indexation se doit d'être double, vidéographique et chorégraphique, en séparant les deux pour mieux les articuler. Ça veut dire pas d'hiérarchisation entre les deux, pas d'omission, pas d'absence ou déni d'un auteur, par exemple, sur l'autre, hein, ce qui veut dire réalisateur par rapport au chorégraphe, ou l'inverse d'ailleurs, ni de recouvrement de l'une sur l'autre, et donc sans amalgame aussi entre les deux. Donc le catalogue Fana Danse Contemporaine présente 2 fiches articulées entre elles, la fiche document ou... finalement qui est une fiche vidéographique. Alors quand vous cliquez sur fiche détaillée, vous avez les 2 fiches qui apparaissent ensemble. La fiche... Oh, excusez-moi, j'ai un ordinateur où on glisse avec les doigts. Et là... on va refaire ça. Donc, tant mieux, dans sa version longue, à sa fiche document qui vient à la suite, voilà, au-dessous, avec des résumés, des considérations techniques sur la lumière, sur le son et ses auteurs dont on va reparler. Et vous avez la fiche chorégraphique qui apparaît sur l'autre colonne, où on a tous les éléments, évidemment, des costumes, des lumières, etc., date, durée, lieu, voilà. Mais vous comprenez bien que la date d'enregistrement n'est pas la même que la date éventuellement d'une première représentation ou de cette fiche chorégraphique-là. que l'éclairagiste du document vidéo n'est pas l'éclairagiste du spectacle. Et voilà, là, dans ma formule, l'archive vidéo, enfin, la vidéo, c'est pas le spectacle. On était vraiment très très loin de ça, justement dans cette idée de dissocier. L'autre chose, c'est qu'on a réuni, et là vous pouvez peut-être le voir, peut-être que je peux grossir là pour le coup. Non. Ah si, je grossis. Là, vous voyez que tant mieux, c'est un film de danse et c'est une adaptation fiction. C'est-à-dire que j'ai voulu séparer aussi les items pour les nommer. On peut reprendre, par exemple, je prends autre chose. Ici, le saut de l'ange, c'est un spectacle de danse et captation. Les choses ont été séparées de la manière suivante. On va avoir le type filmique du document. J'ai fait en sorte qu'il y ait adaptation fiction, captation, documentaire ou compilation. Et on a le type de l'acte, de l'acte qui est présenté dans le document. Donc spectacle de danse, film de danse, répétition. On l'a appelé répétition, mais on comprend en fait tous les éléments du processus de création. Formation, tout ce qui a à voir avec la formation, les cours, etc. Médiation et promotion. Donc là, on a tous les actes chorégraphiques liés à l'acte même qui est présenté dans le document. Donc vous voyez que ici l'archive vidéo c'est le spectacle est profondément déconstruite, mais c'est aussi l'archive, c'est pas la captation forcément aussi. Voilà, donc importance de séparer les deux. Ensuite la question de l'auteur. Alors la question de l'auteur. C'est un grand parcours de 6 ans, vous voyez, parce qu'on pourrait imaginer, voilà, il y a l'auteur, c'est Dominique Bagoué. Bon, après, on s'aperçoit qu'évidemment, la compagnie Bagoué, le centre chorégraphique aussi, a édité d'autres chorégraphes. Les danseurs de la compagnie ont fait des chorégraphies. Et puis, surtout, Dominique Bagoué aussi a invité des chorégraphes à travailler avec sa compagnie. Donc, on se retrouve avec plusieurs auteurs chorégraphes, Trisha Brown, Suzanne Burge, et bien d'autres, des danseurs de la compagnie Bagoué. Ensuite, il y avait aussi toute la question des reprises, c'est-à-dire qui est l'auteur d'une reprise. Au contraire d'hier, c'est vrai que tous les producteurs ont vraiment mis cette pression sur les danseurs des carnets Bagoué à ce que l'auteur, ça soit Dominique Bagoué. Il fallait absolument signer de Dominique Bagoué. Et par contre, leur dimension d'auteur d'une reprise, d'une traduction, d'un remontage, comme ils pouvaient l'appeler, n'était pas du tout considéré. Il fallait presque qu'il s'efface derrière l'auteur Dominique Bagoué, d'ailleurs à leur corps défendant, puisqu'ils ont essayé de défendre l'idée de recréation, de création, voire même de reconception, comme dit Sylvie Giron. Mais voilà. Donc, par exemple, dans ma relation avec Annabelle, il était hors de question que ces auteurs-là apparaissent dans... Alors, bon, déjà, les auteurs, c'est aussi les réalisateurs, vous aurez compris. Hein. C'est-à-dire qu'on a dans la liste des auteurs les chorégraphes, les réalisateurs, mais aussi les auteurs de l'acte représenté, par exemple, notamment dans les conférences, on a mis Laurence Loupe comme auteur, considéré comme auteur. Et il y a Karine Werner aussi qui fait une conférence, donc elle est auteure ici. Mais elle est notée auteur conférencière. Hein, voilà. Donc tous ces auteurs, tous ces artistes passeurs responsables, comme je les ai nommés en fait dans ce fichier, je vous cache pas, qui ont été vraiment introduits dans le fichier depuis seulement 2 mois. C'est-à-dire même si moi j'avais vraiment, je me dis bon, c'est pas possible, il faut quand même reconnaître qu'ils peuvent être mis comme auteurs. Donc on a mis auteur, passeur. Hein. Mais et voilà, il y a quelque chose qui fait que ça n'a été possible que maintenant, hein, c'est-à-dire plus de 20 ans après aussi la mort de Dominique Bagoué, avec une certaine dissolution des carnets Bagoué dans leur objectif de faire que du Bagoué aussi. Voilà, et puis la reconnaissance de ces auteurs, chorégraphes quand même, qui signaient des reprises, a été mise à mal. Donc là, quelque part, c'est aussi d'avoir une certaine autorité que de dire, ben voilà, oui, il y a une activité d'auteur. Donc voilà comment on fabrique l'histoire et fabrique l'archive aussi. Voilà, la question de l'œuvre. Question de l'œuvre est plus qu'importante, puisque... ouais, j'ai fait plus de 20 minutes, là, 30 minutes, non. Ouais, d'accord. Oui, bien sûr. Je voudrais juste donner, par exemple, donc là, vous avez l'ensemble des œuvres, justement, de Dominique Bagouet, il y en a 44, qu'on a appelé œuvres, enfin, que j'ai voulu dénommer œuvres de référence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aucun document ne pouvait être évidemment identifié à l'œuvre. Hein, on est bien d'accord sur ce point. Mais par contre, tous les documents pouvaient être reliés ou en lien ou en résonance avec une œuvre de référence. Donc j'ai construit ce concept qui fait mine de rien, là, comme ça, qui s'appelle œuvre de référence, dans le sens où elle interviendrait ici comme une virtualité, une fiction qui, de temps à autre, s'actualiserait dans un présent ou pas. Et donc interviendrait elle intervient ici simplement avec son titre et la date qui est suivie de l'apparition de son titre. Donc c'est cette idée d'une œuvre de référence comme fiction, comme virtualité, qui s'actualise en lien donc avec la dimension du passé virtuel actuel chez Bergson, qui s'actualise dans des documents ou pas. Donc ici, dans ce fond, on clique par exemple sur Assai. Là, elle s'actualise donc à travers je ne sais plus combien de documents, mais je crois qu'on a 5 captations de spectacles de danse. Un film de danse, pourquoi Zoulou, Pingouin et autres indiens ? Parce que Zoulou, Pingouin et autres indiens est en fait une œuvre des carnets Bagouet qui a aussi un spectacle et aussi un film en même temps, et que cet hommage qui a été fait aux carnets Bagouet, qui a été fait par les carnets Bagouet, cite énormément Assai. Donc, est déjà une traduction de l'œuvre de Assai. Donc, Zoulou, Pingouin et autres indiens se trouvent, vous voyez, dans le champ fictionnel de Assai. Hein. Des médiations, ces entretiens de Dominique Bagouet où il parle éventuellement beaucoup d'Assai, c'est des répétitions, des formations, etc. Je vais peut-être juste vous montrer aussi la dimension de recherche, hein, rechercher dans le catalogue. J'espère que ça va marcher. Je mets Laban parce qu'on vient d'en parler. Juste pour dire que la recherche, c'est des noms propres, des dates, des cotes. On a essayé de faire en sorte qu'elle soit le mieux, mais il faut qu'on retravaille là-dessus. Donc Laban, est-ce que ça va marcher? Je crois qu'on tombe sur... Là, c'est plutôt le serveur qui... Ah, ça y est, super. Donc, on tombe en fait sur des documents. Une conférence de Laurence Loup qui parle justement de la naissance de la danse contemporaine en Allemagne. Donc, le mot Laban apparaît, si vous voulez, dans le résumé, en fait, les résumés qui sont faits sur chaque document. C'est pourquoi ça apparaît. On a des airs d'amour du haut. Des notatrices qui travaillent avec deux danseurs, donc c'est ici Dominique Jégou et Laetitia Lanoé qui travaillent avec Claire Roucol et Natalia Neglish pour l'écriture des partitions en système Laban et en Bénèche. Et donc voilà, je voulais peut-être juste quand même vous montrer comment la vidéo marche, et je pensais faire ça. Ça, c'est justement... Michel Kiliménis et Catherine Legrand, qui répètent une partie de Désert d'amour pour justement le travail de notation qui avait été fait. Donc là, la vidéo. Oh là là. Ah ouais, mais je ne suis pas manchée sur la vidéo. Donc sachez que le catalogue est en ligne pour tous, enfin gratuitement. Par contre, l'accès vidéo, il faut demander en fait un code qu'on vous accorde en général. Surtout pour les recherches, c'est évidemment évident que c'est accordé. Oui. Bon, c'était juste parce que je trouvais assez mignon quand même. Là, c'est juste pour montrer que la vidéo marche et qu'on voit. J'ai écrit DB262, ouais, parce que j'essaye de retrouver, mais j'espère que ça va. En fait, la recherche peut demander quelques secondes. Ça, c'est juste une illustration, mais bon, je trouvais assez mignon de voir Catherine Legrand et Michel Kiliménis travaillait dans un salon avec les deux notatrices qui notaient, et c'était un petit peu en résonance avec notre... Bon. Bien. Bon, ou alors, ah ça y est. Donc la vidéo apparaît, voilà. Hein, alors pour le moment, on va encore travailler sur le fait que l'affiche spectacle soit dessous la vidéo, hein, qu'on puisse avoir l'affiche spectacle en plus. Mais là, elle apparaît par-dessus en fait, la fiche spectacle éventuellement. Donc, on va faire en sorte qu'elle soit dessous, qu'elle apparaisse ici. Et ça, c'est encore du travail. Travail de Sébastien Jacot, informaticien, qui a fait un formidable travail là-dessus. Donc là. Ah, ça, c'est avec... Oui, je me suis trompée de... C'est pas la même document que tout à l'heure, en fait. Là, c'est Olivia Granville qui explique, en fait, aux notatrices. Je voulais vous montrer le document qui a été fait après, où ce qui est très drôle, en fait, c'est la notatrice qui dit à Catherine Legrand, mais dis donc, là, tu fais pas bien, j'avais pas noté ça. Sur la vidéo, c'est pas comme ça, elle dit. Donc, bon, c'était pour dire comment les choses aussi se répondent, se tissent... de traduction en traduction. Voilà, je vous remercie.
Merci, Aurore. Je voudrais savoir si ce mode d'emploi que tu viens de nous décliner aujourd'hui et qui est très précieux, notamment pour ce qui est de l'autorité qui construit l'archive, sera aussi disponible. C'est-à-dire les personnes qui vont utiliser cette interface pourront aussi lire le mode d'emploi.
Oui, c'est dans le texte qui s'appelle « Conception des catalogues » qui se trouve là-haut. Voilà. Avec, de manière un petit peu plus claire, j'espère, et peut-être plus... Voilà, plus clair ce que je vous ai présenté ici, mais c'est aussi partir aussi, je pense, dans un voyage aussi à la découverte. Je veux dire, il y a des thèmes de recherche qui peuvent être... là, c'est vrai que ce qui est mis en lumière, c'est tout de même dans ce catalogue, c'est tout de même toute cette filiation, toute cette itération de l'œuvre et cette démultiplication de l'œuvre. C'est quand même ça aussi qui est mis en lumière. Mais avec tout toute recherche possible, de voir comment une actualisation de l'œuvre éclaire. C'est clair ensemble, enfin, avec toutes les problématiques sur la transmission, etc. Mais voilà, on peut tout à fait travailler. Moi, j'ai essayé de travailler sur Bagoué à la télévision dernièrement. Donc voilà, on peut mettre INA, télévision, et c'est voilà, de voir un petit peu comment, à un moment donné, ça apparaît. Alors évidemment, moi, donc, ce qui m'intéresserait, c'est que quand on utilise ce... Enfin, ce qui serait intéressant, c'est justement de pouvoir référer, bon, peut-être pas jusqu'à aller mettre la cote DB4 dans la danse contemporaine, mais au moins d'être clair sur une archive vidéo, une citation, une référence. Donc il y a le réalisateur, un producteur ou pas, mais voilà. Et là, c'est vrai que tous les renseignements, ils sont. Hein, donc c'est vraiment une invitation aussi à une rigueur sur le plan de la mention de la référence vidéo. Voilà.
Je voulais remercier Aurore pour sa communication, ce travail formidable, et qui nous permet aussi de découvrir comment on travaille en faisant une archive. Mm-hmm. Nous, on doit déconstruire la trace, et le même travail, vous l'avez fait de notre côté. Mm-hmm. Et en particulier, le travail sur la trace, sur les captations vidéo. Parce que je trouve qu'on est encore... on ne les questionne pas encore suffisamment. Mm-hmm. Et on ne considère pas qu'on n'est pas devant le spectacle, mais devant le travail que l'œil de quelqu'un d'autre a fait. Donc on est devant une interprétation. Mais ce que normalement on ne songe pas. Donc tout un travail d'étude, de déconstruction de l'image, un mouvement, doit encore être souvent fait.
Voilà, c'est ce que j'essayais d'initier un petit peu.
Par rapport aux archives papier, je crois, écrit, déposé à l'IMEC de Bagoué, vous avez établi quel type de rapport par rapport
à ces... Au départ, c'était l'idée d'être en lien avec l'IMEC, sachant que l'IMEC, justement, ne traite absolument pas les archives vidéo. Même si des vidéos ont été déposées, je pense, quand même à l'IMEC, mais de toute façon, il ne les traiterait pas. Donc, Anne Abeille aussi, que j'ai rencontrée donc en 2007, je crois, parce que je ne sais plus trop, me disait que voilà, elle ne savait pas trop quoi faire des archives vidéo spécialement pour le coup. Bon. Oui, voilà. Voilà, donc je... voilà, je ne vous cache pas qu'on a essayé d'avoir des liens avec l'IMEC et finalement ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'il y a une personne qui est partie. Enfin bon, voilà. Mais peut-être à l'avenir, je pense que oui, parce qu'il y a quand même un souci pour le coup sur ce fonds Dominique Bagoué, Carnet Bagoué, c'est qu'en fait il est disséminé en fait, entre IMEC. Le CND a en fait acheté des archives, a acheté 80 vidéos sur ces 300 qu'on a, ils en ont 80, donc il y a eu une hiérarchisation des choses qui ont été faites. Ils les ont archivées, c'est pareil, avec Laurent Sibillotte, on devait travailler ensemble, et puis c'est changé des choses quoi, au départ, et puis finalement, ça c'est... Voilà, ça ne s'est pas fait parce que moi, je suis partie aussi sur une indexation de... neutralité archivistique, je n'ai jamais cru. Donc, c'est vrai que... Bon, là, je suis peut-être... Mais Laurent Sibillotte me disait que, voilà, eux, ils étaient archivistes, ils étaient objectifs et neutres. Donc, déjà, on n'était pas véritablement sur les mêmes catégories. Et puis, l'autre chose, c'est pour l'indexation, et notamment sur cette... séparation de la nature vidéographique et chorégraphique, c'est-à-dire que et c'est pas du tout opéré par le CND, ça, c'est-à-dire que ils peuvent mettre cours de danse sous-entendant que c'est une captation, ils peuvent mettre spectacle filmé, enfin bon, c'est et donc je pouvais pas véritablement m'y reconnaître, donc Ben, on va se retrouver après avec le CND, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est...
J'avais une petite question.
Très rapidement, s'il vous plaît. Parce que ou alors on ne fait pas de pause. Mais...
Je peux quand même ou pas?
Oui. Oui.
Merci Aurore, bien sûr, pour ce travail et surtout cette proposition qui nous est donnée. Ma question, elle va un peu dans le même sens de celle de Stefano, mais elle partait d'ailleurs. Je me questionne sur la relation entre les différents fonds. Qu'est-ce que ça veut dire un fonds ? Réellement, et notamment quand je voyais les auteurs, je voyais Suzanne Buirge, je suis allée cliquer dessus, et en fait ce que je sais peu de choses, mais ce que je sais c'est que Suzanne Buirge a créé une pièce avec les danseurs de Bagoué, invités par Bagoué, notamment par celle de Ciel, et qu'en fait je sais aussi que le fonds Suzanne Buirge est à l'IMEC. Comment est-ce que ça se joue? Quand je clique sur Suzanne Buirge, je vois rien apparaître. Donc la question, elle est quel est le sens de ces auteurs qu'est-ce que ça va pouvoir faire apparaître et qu'est-ce que ça va nous donner à saisir différemment? Et quel lien, et du coup ça rejoint la question précédente, quel lien pour pouvoir aller accéder à des éléments qui font partie de la vie de la compagnie Bagoué et des œuvres créées au sein de cette compagnie, mais qui sont ailleurs.
En fait, là, nous, donc, on a cette œuvre en Ac ou en Île qui a été en fait une créée dans le cadre de la compagnie Bagoué, donc elle appartient bien au fonds Bagoué. Oui ? Là, tu... Ça te questionne?
Ça ne me questionne pas que le fait que ça appartienne. Ce qui me questionne, c'est-à-dire que d'une certaine façon, je trouve extrêmement légitime que ça apparaisse. Et en même temps, si moi ça m'intéresse, je ne vais pas y avoir accès là. Donc,
Pas avoir accès parce que là, on a mis spectacle non filmé.
Non, mais on sait bien que le spectacle, il est filmé et qu'il y a plusieurs captations et qu'il y a plusieurs natures de documents, etc.
Je j'en sais rien. Hein, sais pas. Ça se trouve, d'accord, il n'a pas été filmé. Je ne sais pas.
Alors,
voilà. Alors là, c'est une question à poser plutôt à Annabelle.
Mais là, du coup, par rapport à Suzanne Birch, là, tu parles de quel spectacle?
Eh bien, en Ac ou en Île.
Ouais.
Par contre, on a une promotion. Donc, en Ac ou en Île, extrait. Donc, il a dû être filmé, voilà, ça y est, je sais. Mais là, on n'a pas la captation. Alors là, pour des raisons, je ne sais pas.
Oui, mais parce que tu vois, sur ce spectacle-là, il marque auteur chorégraphique Dominique Bagoué.
Parce que... Ah, ben là, c'est une erreur d'indexation, super. Mais de toute façon, il y en a d'autres. Hein. C'est que là, vous avez deux œuvres...
Et dans la fiche détaillée, ils disent d'autres choses, en fait.
Ça, c'est un document de promotion. Donc, vous avez deux œuvres qui renvoient à deux fiches chorégraphiques, Effestein et en Ac ou en Île. Vous voyez, là, elles y sont, les deux œuvres chorégraphiques. Sauf qu'on a oublié, on a mis auteur-chorégraphe Dominique Bagoué, on aurait dû rajouter auteur-chorégraphe Suzanne Birch pour le deuxième document. Et ça n'a pas été fait. Voilà, donc là, ça veut dire qu'il faut que je note et qu'on rajoute Suzanne Birch. Pourtant, Suzanne Birch, c'est bien, voilà, ça me paraît quand même dans sa case, mais bon, voilà. Ça va ?
Une dernière
question. On continuera la discussion.
Oui, je pense qu'il faut faire le tri entre ce dont on discutera en prenant un café. Et il faut terminer. Il y avait une dernière question ? Non ? Alors, très rapidement.
Oui, en fait, là, on vient de voir plutôt la conceptualisation de l'archive. Et après aussi, parce que moi, j'ai travaillé sur les archives filmiques, justement, de Dominique Bagoué, et puis j'ai fait ma thèse là-dessus. Il y a une autre question, c'est aussi l'utilisation des archives filmiques dans le cadre d'une thèse ou dans le cadre d'une recherche écrite, plutôt. Parce que quand on fait une citation à partir d'un bouquin, et ben, on peut le citer, mais cette citation d'une archive filmique, elle n'est pas encore valable, enfin, elle n'est pas encore là. Voilà.
Oui, mais en même temps, il y a peut-être quand même cette nécessité de le mentionner, c'est-à-dire de parler d'une œuvre comme Assai, par exemple, l'œuvre Assai, et finalement, sur quoi on se base ? Sur telle captation, telle celle-ci, celle-là, celle qui a été filmée par Anne Abeille de loin, celle qui a été filmée par Charles Pic le même jour de près. Donc moi, c'est, je pense qu'on peut quand même référer, simplement en le disant, que là, on est en train de parler de l'actualisation d'Assaï dans ce moment-là. Et là, après, ce qui ne nous empêche pas de parler de cette virtualité fictionnée Assaï.
Oui, moi, mais... je pense que oui, il y a un problème pour l'utilisation de l'archive filmique dans ce cadre-là. Voilà. Enfin, moi, ce que j'ai senti.
Mais déjà, en le mettant en note, moi, je pense.
C'est pas suffisant, parce que quand on met en note une citation, on ne dit pas telle dérive, telle personne, on dit aussi la citation. Donc là, on ne peut pas citer en fait, une archive filmique, c'est ça. Mais cela n'empêche pas, peut-être qu'il faut développer justement les thèses en danse avec cette ouverture-là. Voilà,
avec cette ouverture, voilà. Oui, vidéo.
Oui. Oui.
Est-ce que ce projet va se développer pour d'autres fonds d'archives de la danse contemporaine?
Là, on est déjà super content d'avoir fait ça. C'est vrai que c'est un vrai travail de conception et puis de récolte et de conception aussi et de développement informatique. Mais oui, bien sûr, on a... surtout, c'est marrant parce que Sébastien Jacquot, qui est l'informaticien qui a vraiment travaillé à ça, maintenant qu'il sent que c'est fini, parce c'était vraiment évolutif, on a changé tout le temps, on n'avait pas notre cadre au début du tout. Il a vraiment envie de continuer, de faire d'autres fonds, etc. Voilà. Moi, bon. Oui. Bah, l'idée, c'est, voilà, c'est de y aller, des chorégraphes vivants aussi.
Merci beaucoup. On fait une petite pause de 10 minutes à peine, jusqu'à 11h30.